Bonsoir à tous, amis HDRiens et HDRiennes et tous les autres qui nous écoutent. Vous le savez, 17h, c'est l'heure du Blabla Mix avec toujours du bon et ce soir encore du bon comme vous l'aimez. D'abord, l'agenda de nos amis les stagiaires Plamedi et Gabriel, dont j'ai failli écorcher le nom. Salut les gars.
Salut.
On nous a repéré du bon?
Ouais, je pense.
Super. Ensuite, on retrouvera une interview de l'artiste David Desclos qui fait un spectacle prochainement qui s'appelle Écroué de rire au centre André Malraux. Petite interview réalisée par notre ami Ousmane qui va vous annoncer un petit peu ce spectacle hors du commun. Je vais le laisser en parler, il en parlera mieux que moi. Ensuite, bien sûr, vous le savez, le jeudi, on retrouve également la chronique histoire de l'homme le plus joyeux des Hauts-de-Rouen. J'ai nommé le docteur Mansour. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Et ensuite, on retrouvera bien sûr notre invité à 17h30 qui ce soir est Madame Charlotte Héroard, si je ne me trompe pas de nom, et qui viendra nous présenter son association Profession Sport et Loisirs 76. Si c'est bien ça, malheureusement, elle ne peut pas vous dire bonsoir puisqu'elle n'a pas de micro. Voilà.
Je dis bonsoir à sa place.
Et bien sûr, vous l'entendez, il est toujours là, il est toujours parmi nous, l'homme d'or et de platine, Jérémy. Salut Jérémy.
Merci, salut.
Merci à toi de nous réaliser cette superbe émission et merci à toi de nous envoyer notre première pause musicale. Clean Up Woman de Betty Wright. Right, clean up woman.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
17h05, chers amis, et vous retrouvez sur fond de musique mystérieuse, la chronique événement de Plamedi et Gabriel. Qui commence, monsieur?
Je pense que je vais commencer.
Eh ben, Plamedi va commencer. Qu'est-ce que tu nous as repéré de bon, Plamedi?
Alors, je vais parler tout d'abord de l'inauguration du parcours de Repainville. Donc, le parcours de découverte de Repainville, parc naturel urbain, qui s'étend sur une zone de près de 10 hectares au sein de la ville, vient d'être inauguré. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet phare de la municipalité en matière de sauvegarde de la biodiversité en zone urbaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire dessus. Je vais parler également aussi de « Femme, je vous aime » est une femme en Normandie, du 18e siècle au début du 20e siècle. Donc du 6 avril 2019 au 8 mars 2020, le Musée des Traditions et Arts Normands continue son cycle d'expositions sur les âges de la vie en proposant d'aborder la place de la femme dans la société normande. La Normandie offre une histoire riche de portraits de femmes, anonymes ou célèbres, issues des milieux politiques, littéraires, artistiques, scientifiques ou religieux, que l'exposition met également en valeur. Donc, durant cet événement, il y aura des spectacles ainsi que des lectures le dimanche 28 avril 2019 à 15h, qui s'intitule « Ces femmes qui ont marqué la Normandie ». Le dimanche 17 novembre 2019 à 15h, « La femme chez Flaubert et Maupassant ». Le samedi 23 novembre 2019 à 15h30, concert dans le cadre du Festival Chandelle. Le dimanche 1er décembre 2019 à 15h, spectacle « Connaissez-vous Victor » par la compagnie Coup de Théâtre. Et enfin, le dimanche 8 mars 2020 à 15h30, le concert avec le chœur à Cordel à l'occasion de la Journée de la Femme.
Super, ça c'est au château de Martinville, c'est ça le beau château tout rouge là.
Oui, c'est ça.
Eh ben, vous pouvez être sûr de m'y trouver au moins un truc sur Flaubert, ça, aucun doute. Et toi Gabriel, qu'est-ce que t'as repéré?
Bon, déjà, je vous ai trouvé 2-3 plans pour ce soir.
Ah.
Par exemple, vous pourrez aller au 130 et Malraux pour le vernissage de l'exposition Geek présentée par Pixel.
Ah, ça y est, ça commence là.
Ouais, à partir de 18h. Au programme, vous retrouverez des quiz et des photocalls. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des photocalls, il s'agit d'une animation photo généralement mise en place lors des mariages ou pour les soirées d'entreprise.
Ouais, c'est une espèce de truc au bout du tapis rouge, là.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est inspiré du monde du cinéma, en fait, ouais. Du coup. Ensuite, au hangar 107, à 20h, vous pourrez assister au Soulful Times Quartet. Donc, c'est 4 jeunes du conservatoire qui interpréteront les plus grands classiques du jazz. Et donc, du coup, pour les entrées là-bas, c'est gratuit.
Super.
Et ensuite, au 106 aussi, vous avez la Maison Tellier qui vient jouer sur scène pour la sortie de leur 6e album qui s'appelle Primitif Moderne. C'est à 20h et pour les entrées, ce sera entre 15,50€ et 24,50€.
C'est un peu moins super, mais le groupe est chouette.
Ouais. Ensuite, okay. J'ai un petit plan pour demain aussi.
Ah.
Du coup, demain, vous pourrez aller à la MJC Rive Gauche à 20h pour assister à la conférence gesticulée Déchets et des Hommes de Tiffaine Ducharne. L'ouverture des portes est à partir de 19h30 et pour les entrées, c'est tarif libre. Vous pouvez donner ce que vous voulez.
Ah, bah ça, c'est sympa aussi. On n'a pas fini de vous en parler des conférences gesticulées. Ce sera tout, messieurs ?
Ouais, c'est tout.
Bah, merci beaucoup pour ce travail de haute qualité. Et je vous propose qu'on s'écoute maintenant l'interview de notre ami Ousmane qui a interviewé David Desclos.
Bonjour David, vous jouez le 10 avril ici à Rouen, votre spectacle Écroué de rire, mis en scène par Monsieur Tommy Bugsy. Écroué de rire, c'est quoi comme spectacle concrètement, Monsieur David ?
Alors c'est ma vraie vie avec humour et dérision, mais beaucoup de messages.
D'accord.
J'ai fait 10 ans de prison dans ma vie, j'étais fiché au grand banditisme, mmh. Et j'ai décidé d'en faire un spectacle, mais bon... raconter tout ça avec beaucoup d'humour et de dérision, mais surtout beaucoup de messages. Et l'idée, c'est de faire comprendre en 1h20 de spectacle ce que moi j'ai compris en 20 ans à tous les jeunes qui seraient susceptibles de partir sur le mauvais chemin.
Est-ce que le rire est un moyen pour vous de faire passer des messages de prévention pour la jeunesse et aussi pour les parents, enfin, voilà, qui écoutent?
Exactement, c'est exactement ça. Je veux par le rire faire passer tous ces messages. C'est-à-dire voilà, faire de la prévention, de la réinsertion aussi, parce qu'on joue aussi dans les prisons.
D'accord.
Par exemple, le 10, là, on jouera l'après-midi dans la prison de Rouen.
Mmh.
Et ensuite, le soir, à 17h30, en fin d'après-midi, au centre André Malraux. Donc, on fait de la réinsertion et aussi de la prévention. Et c'est, le spectacle sert à ça. Il est suivi d'un débat et franchement, on n'a que des retours positifs. Tout le monde dit que c'est une baguette magique, tellement on a des super retours au niveau des éducateurs, des jeunes, tous ceux qui ont vu le spectacle sont tous unanimes.
J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi comme titre le rire pour représenter, enfin pour justement pour prévenir les jeunes. Voilà.
Bah parce que je pense que avec le rire, on peut accéder à plein de choses. Et puis surtout. Quand j'ai décidé de raconter tout ça, je me suis penché sur le truc et je savais que ça avait déjà été fait dans la littérature, maintes et maintes fois. Mm-hmm. Beaucoup d'anciens gangsters avaient écrit des livres et je voulais pas être cet énième gangster qui écrit un livre et qui raconte sa vie. Je sais qu'aussi au cinéma ça s'est fait. Alors bien sûr, là maintenant, on a, avec la préparation du livre et du cinéma, ça va venir, ça, enfin on en pour parler. Mais dans un premier temps, je voulais arriver d'une façon originale. Je voulais vraiment atteindre aussi différents publics, le faire dans différents lieux. C'est-à-dire dans tous les théâtres de France, de Paris et de France, des beaux théâtres, toucher toute la population et aller le faire dans les quartiers, dans les prisons, dans les écoles, dans les lycées. Et arriver avec sous forme d'humour pour décontracter, passer une bonne soirée ou un bon après-midi avec rire et tout, mais subtilement envoyer les messages. Avec le rire, on peut envoyer beaucoup de messages. Et donc l'idée, c'était d'arriver d'une façon originale.
Et mercredi prochain, donc il y aura qui avec vous? Donc vous serez tout seul.
Il y aura Stomy Bugsy qui sera avec moi, on sera tous les deux. Et on sera accompagné par différentes. Il y aura l'attaché de presse, la presse et tout ça. Il y aura un peu de monde qui vienne couvrir l'événement. Mais surtout, voilà, c'est mon metteur en scène, Stomy Bugsy et ami, qui a fait la mise en scène, qui est co-auteur avec moi, qui me coach au niveau de l'acting, au niveau de l'acteur et tout. Et voilà, Stomy Bugsy qui vient de Sarcelles, moi je viens de Caen, quartier de la Pierrosée à Caen. On vient des mêmes lieux, on sait de quoi on parle. On est passé par là où les jeunes sont passés. Moi en prison, j'étais avec beaucoup de jeunes de Rouen. J'ai connu vraiment des super mecs des quartiers de Rouen et avec qui je me suis super bien entendu. Et je sais pas, peut-être qu'ils seront là ce soir-là. Voilà, en tout cas, je garde en mémoire de vraiment de sacrés bons souvenirs avec les mecs de Rouen avec qui j'étais incarcéré. C'était vraiment des types super bien avec qui on a dans le malheur dans lequel on était, dans cette misère, on a eu des bons moments de rigolade, on s'est soutenus, on a été d'un grand soutien tous ensemble. Et j'en place une en même temps pour toutes les familles, toutes les familles qui vont au parloir voir tous les détenus. Je sais ce qu'elles vivent, les mamans, les papas, les enfants, tout ça, les sœurs et tout, qui ramènent le linge, qui viennent pour une demi-heure de parloir. Voilà, dans mon spectacle, il y a un grand message pour eux. Il y a un message aussi pour les victimes qui sont victimes de cambriolage, qui le vivent aussi comme un viol. Un cambriolage, c'est une violation de domicile. Donc, il y a plein de messages à tout ça, à toute cette jeunesse qui gâche leur culot, leur talent et voilà, dans ce monde malhonnête. Voilà, il y a vraiment beaucoup de messages. On passe un bon moment à rigoler. C'est une vraie histoire. Tout est vrai à 100%. Je raconte ma vraie évasion. Comment on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. Je raconte tout ça avec humour et dérision, ma cavale, la maison d'arrêt, la prison sous toutes ses formes. Et voilà, on en rigole. Il y a un débat ensuite, Et c'est suivi d'un débat. Franchement, venez voir ça, venez en juger par vous-même. Vous allez rire, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a du rire, il y a de l'émotion, mais il y a beaucoup de fond et beaucoup de messages.
Le rire peut être aussi un enseignement, donc c'est ce que vous nous proposez mercredi 10 avril, ici sur les Hauts-de-Rouen. Voilà. Votre rencontre avec Stomy Bugsy, comment ça s'est fait et comment vous êtes arrivé à travailler ensemble, quoi?
J'ai rencontré Stomy Bugsy grâce à un ami avec qui j'étais en prison, qui était de Sarcelles. Donc Stomy est de Sarcelles aussi. Moi, c'est un grand ami à moi. J'ai parlé d'une idée de série télé. Je voulais faire ça aussi en série télé. C'est toujours en cours. Je suis en pourparlers avec des belles maisons de production pour faire la série. Et j'ai dit à mon ami qu'il me mette en contact avec Stomy pour écrire un épisode avec Stomy. Je voulais que Stomy ait un rôle dedans, mais je voulais qu'on l'écrive ensemble, l'épisode. Et ça a tellement bien marché que d'un épisode, on en a écrit une petite dizaine d'épisodes, 7-8 épisodes ensemble. Et ensuite il est venu voir mon spectacle, il a adoré le spectacle. Je lui ai dit aide-moi à la mise en scène, voilà. On s'est jamais quitté. Ça fait voilà, maintenant on a écrit des pièces de théâtre ensemble, on est en train à l'écriture d'un de ses films à lui là qui va revenir au cinéma, Stomy, et voilà. On a l'impression s'être toujours connu. On dirait qu'on se connaît depuis plus de 20 ans, qu'on a grandi ensemble, et de toute façon on a grandi dans le même genre de quartier, on vit la même chose. Il y a une alchimie qui est indescriptible. On est devenus des grands amis et on travaille ensemble sur tous ces projets.
Mercredi, Monsieur David y sera là et il nous raconte sa vie. Et à travers ça, il y a plein de messages positifs pour les jeunes et pour les parents. Le rire, c'est aussi un enseignement. Monsieur Plamédi, qu'est-ce que vous pouvez rajouter?
Je pense qu'il a été très clair et que oui, c'est un bon enseignement, le rire, tout simplement.
D'accord, ok.
Voilà. Donc, par le rire, on passe beaucoup de messages et on donne rendez-vous à tout le monde mercredi 10 avril à 17h30 au Centre André Malraux. Je serai accompagné de Stomy Bugsy, du ministère Hammer. Voilà, on sera ensemble et c'est suivi d'un débat. Et venez, on en parle après, vous en jugerez par vous-même, vous allez voir. Avec plaisir, okay, cool. Avec plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup à tous et grand big up à tous les gens de Rouen et toute la scène maritime. Merci, à très bientôt, à mercredi avec plaisir.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Keep me apart. I'm through sleepwalking.
Nanuflet de Timari Wen. J'espère que je ne prononce pas mal le titre de cette belle chanson.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et il est 17h20, mes chers amis, et à 17h20, le jeudi, vous le savez, c'est l'heure de la joie, de la bonne humeur et des réjouissances avec le docteur Mansour.
Bonsoir. Donc on va se projeter en fait au tout début du XXe siècle, et en fait le début du XXe siècle voit la presse en fait en France être au, on va dire, c'est son âge d'or.
Ouais.
Donc plusieurs millions de tirages, hein. Alors à l'époque il y avait quand même 3 à 4 fois moins de population. Par exemple le petit journal à l'époque tirait à 5 millions d'exemplaires, presse quotidienne. Et en fait il y a un métier qui est en train de sortir du lot, ce sont les faits diversiers, ceux qui annoncent les faits divers. Et justement le crime et la criminalité fait vendre et attise les gens. En même temps d'avoir peur, on a besoin. Donc, à l'époque, il y a des bandes de jeunes qui sont à la périphérie de Paris, qu'on appelle aussi les fortifs, les fortifications, en dehors des fortifications, qu'on appelle les apaches, qui apparemment sont des voleurs, des petits assassins, des petits contrebandiers, des petits proxénètes. On parle beaucoup d'eux parce qu'ils font beaucoup de bruit. Et il y a les vagabonds, dont on se méfie, dont un en particulier, Joseph Vacher, à la fin du 19e siècle, qui sera en fait surnommé, entre guillemets, le Jack l'Éventreur.
Sympa.
Mais en fait aussi surnommé le tueur de berger. Il sera décapité, hein, pour ça. Donc on lui reconnaîtra 11 meurtres, mais d'après les spécialistes de l'époque et les rapports de police, il en aurait commis plus de 30.
On commence dans la joie, donc. Hein.
Voilà, tout à fait. Et les Romain Michel, qu'on accuse de tout et de rien, c'est-à-dire voleurs d'enfants, qui sacrifient des enfants pour des sacrifices et autres, tout un imaginaire.
C'est marrant, ça me rappelle quelque chose.
Voilà, donc, de toute façon, cet imaginaire-là a touché beaucoup de populations. Et en fait, à la même époque, le Conseil essaie de voter et de faire passer l'abolition de la peine de mort.
Déjà.
Voilà, donc on est en 1906 quand les débats commencent réellement. Et en fait, à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que les gens, non seulement en discutent, mais en même temps, on dit, mais si on ne les tue pas, ils vont parce qu'il y a la récidive qui est en train d'apparaître. On voit qu'il y a des criminels, on a beau les arrêter, ils recommencent. Donc la récidive fait en sorte que le camp de ceux qui sont pour la peine de mort gagne en puissance. Et pourtant, le président du Conseil et certains ministres essaient de faire en sorte que en fait, la France arrête. Ils disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, plein de débats.
C'est une vraie volonté politique.
Voilà. Et en fait, c'est en janvier 1907, et ben en fait, il y a Marthe Eberlein qui a disparu. Donc pour l'instant, c'est une histoire de disparition. Donc, elle était avec Albert Soléan, qui lui, l'avait conduit à Bataclan, qui est en fait une salle de spectacle, le cabaret, qui est toujours boulevard Voltaire d'ailleurs. Et en fait, elle a 11 ans, et en fait, lui, bon, comme on lui avait confié, parce que les Berlin et lui se connaissent très bien depuis des années, ils ont même travaillé ensemble, parce que c'est un ouvrier spécialisé, et en fait, ils vont quand même à la police 3 jours après la disparition, au commissariat, annoncer la disparition de la petite. Pour l'instant, c'est juste une histoire de disparition. Les enquêtes sont menées au Bataclan. Et c'est vrai que commencent à apparaître certaines incohérences. Et bien, à Bataclan, et ben, on interroge le personnel. Ils ne se souviennent absolument pas avoir aperçu ni Robert Soléan, ni la petite Marthe. Donc là, il y a un problème dans la déposition de ce monsieur. Et en fait, en même temps, petit à petit, on commence, l'étau se resserre sur ce monsieur. On dit, bon, c'est peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être eu un... Alors, au début, on ne l'accuse pas de meurtre ni de rien. On dit, bon, il a peut-être s'est passé quelque chose et il n'a rien dit. Donc, dans sa première disposition, il dit qu'en fait, il a profité que sa femme était absente et pris d'un coup de folie, il l'a tué. Et il l'a caché dans la réserve d'une boucherie. Une réserve qui servait au boucher.
Oula.
On la retrouve, mais comme il faisait froid en plus cet hiver-là, on fait une autopsie et là on découvre le plus atroce de tout, c'est qu'elle a connu tous les outrages. Vulgairement violeur, un viol à 11 ans et qu'elle a été poignardée.
Effectivement, jouer bonne humeur aujourd'hui.
Voilà. Donc la presse s'empare tout de suite et on en fait le monstre. Normal. Donc là, imaginez le camp de ceux qui sont pour la peine de mort, ce qui est en train de se passer.
Ah, c'est presque du pain béni, malheureusement.
Ah, c'est plus que du pain béni. Mais bon. Le voisinage est totalement choqué, les parents de la petite encore plus, vu qu'ils faisaient confiance. Mais en fait, tout le monde réclame sa mort, en fait, directement. Il a commis le pire de tous les crimes, tuer un enfant. D'ailleurs, on pourra le dire après, c'est qu'à chaque fois qu'il y a crime d'enfant, le débat ressort, même encore aujourd'hui. Ouais. Peine de mort, pas peine de mort, faut-il pas ? Et en fait, la duplicité de ce monsieur, c'est qu'il semblerait que ce soit prémédité, en fait.
En plus.
Donc, ce qui fait me remonter encore plus la colère. Et entre deux, ça va plus ou moins se calmer, jusqu'au 24, 25 et 26 juillet 1907, il est condamné à la peine capitale.
Donc c'est réglé ?
Non. Parce que justement, l'opinion publique a un problème à régler. C'est qu'en fait, le président du conseil, lui, veut abolir la peine de mort.
C'était qui le président du conseil ?
Je vous le dirai après, parce qu'il a un portrait
question
particulier.
Question piège, autant pour moi.
Non. Bon, ministre des... dans l'intérieur, c'était Clémenceau d'ailleurs à l'époque.
Ah d'accord, ok, oui, un personnage particulier aussi. D'ailleurs.
Oui, mais lui, il était quand même, il était pour l'absolu, justement l'abolition totale. Et en fait, on sait que il risque d'être gracié. Oui. Et c'est ce qu'on attend. Est-ce qu'il va être gracié ou non ? Tout le monde le réclame d'ailleurs cette mort. Il faut savoir que depuis 1906, il n'y a pas eu de condamnation à mort en France.
D'accord.
Parce que systématiquement, ils ont été graciés. Tant que le débat continuait.
Ok, c'est une sorte de tradition un peu.
Pour l'instant.
D'accord.
Parce qu'après, ça va se compliquer pour beaucoup. Donc, les membres du jury disent que non, il faut. Les avocats se disent non, mais là, il a dépassé le câble. Armand Falière, qui est le président, lui, il dit il va le gracier. Et il sera amené au bagne de Cayenne. Et là, même la presse de gauche et anarchiste va s'en prendre à tout le monde. On dira que le bagne, en fait, c'est quasiment les vacances. Donc, pas béni, alors que c'est pas vrai, parce que si vous y étiez condamné au bagne, la moitié d'entre eux ne vivaient pas un an.
Oui, il y a des témoignages assez édifiants, hein. Ouais, et des cimetières d'ailleurs.
Oui, donc le bagne, c'est peut-être une belle île, hein, mais non, on ne survit pas. Et en fait, la presse à l'époque, c'est comme si elle avait une mission. Donc, qu'est-ce qu'ils organisent ? Le petit Paris, qui est un journal, le petit Parisien, qui est un journal à fort tirage, quasiment le plus fort de France, organise en fait un référendum.
Oh, mais non.
Mais qui ne tient pas de vrai référendum, ils disent que ce n'est pas un vrai vote. Qui est pour l'abolition et qui ne l'est pas ? D'après vous, qui a gagné ?
Bah, qui ne l'est pas, du
voilà.
coup.
Voilà. Et alors, comme ils ont été malins, non seulement ils ont fait ce vote, bon, accessoirement, vous pouviez gagner un prix ou un cadeau.
Oh, c'est pas vrai.
Si, c'est l'époque. Hein.
On n'a rien inventé. Hein.
Ouais. Donc, tout ça dure depuis septembre jusqu'à novembre. Et ce référendum, simultanément, tellement que le vote est devenu violent, tellement que les pétitions sont de plus en plus violentes, les lettres d'injures sont de plus en plus violentes, le conseil va lâcher.
Donc du coup, peine de mort.
Il sera quand même exécuté vers la fin. En même temps, novembre 1907, décembre 1907, Clémenceau arrive à faire voter quelque chose d'extraordinaire, la brigade des tigres.
Ah oui, la fameuse police judiciaire.
Police judiciaire motorisée, je précise. Car les brigands avaient des automobiles, mais pas eux.
Ah, il était temps de se mettre à la page. Les chevaux, ça marche plus.
Oui, 4 véhicules pour toute la France.
Ah bon,
moi,
quand
je
même.
Précise. Donc en fait, alors, juste pour à peu près signifier ce référendum, 1 400 000, plus d'un million 400 000 personnes ont répondu. Plus d'un million, on dit, le maintien de la peine de mort.
Dans le contexte...
Ah, il n'y a pas que le contexte. Si aujourd'hui on faisait, il y aurait un crime aussi entre guillemets crapuleux, est-ce qu'on n'aurait pas à peu près le même
Ce serait pas surprenant, je pense, voilà. Mais ce n'est que mon opinion.
Non, donc, alors cette affaire-là fait qu'en fait, la peine de mort va être établie. Le 8 décembre 1908, à large majorité, les députés rejettent l'abolition. Et en fait, il faudra attendre 72 ans après pour que l'abolition arrive en France. Donc, il sera pendu.
Ah oui, en plus, on faisait ça encore à... Oui. La corde.
Voilà. Mais alors.
La potence, voilà, c'est le terme que je cherchais.
Et là, on est déjà en janvier 1909. Mm-hmm. On va exécuter en gros 7 personnes, c'est-à-dire autant que les 4 dernières années passées.
Ah oui, là, les vannes sont lâchées, quoi.
Voilà, là, c'est fini. Et en plus, l'exécuteur principal sera même accueilli comme un espèce de messie où on l'applaudira et. C'est un corps de métier à l'époque. Hein. Il était un peu au chômage technique pendant 3 ans. Et là, il se retrouve à revenir là-dessus. Il faut savoir que toute cette affaire-là, curieusement, va rappeler l'affaire du petit Grégory et tout le reste. Vous avez juste à regarder sur Internet, si vous voulez, vous tapez l'affaire Grégory, vous tapez juste les images de TF1 ou autre chaîne, et vous verrez qu'on réclame la peine de mort, systématiquement. À chaque fois qu'on touche à un enfant, on pourra parier qu'on pourra refaire un référendum non officiel comme la presse le pourra le faire, systématiquement, on aura la même réponse.
Donc du coup, ce monsieur, en fait, a relancé la peine de mort pour quoi ? Ça a été aboli quand, la peine de mort ?
1981.
Ouais, c'était Mitterrand, c'est ça ?
Sous Mitterrand.
Donc pour à peu près 80 ans, quoi.
Voilà. Alors que ça aurait pu être voté entre 1906 et 1907.
Ok, bon, bah voilà.
72 ans, juste pour un crime crapuleux.
Que voilà encore un sujet qui va nous empêcher de dormir ce soir, sauf si on s'écoute une petite musique un peu joyeuse que Jérémy, notre aimable réalisateur, nous a préparée. Somebody to Love de Jefferson Airplane. When the truth is found to be lies, and all the joy within you. Jefferson Airplane avec Somebody to Love.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Et d'aucuns ici se disent que faire une transition entre la chronique de Mansour et l'accueil de notre invitée, Madame Charlotte Herouard, qui vient nous parler de sport, ça va être du sport. Et voilà la transition toute trouvée, mesdames et messieurs. Rebonjour, Madame Herouard, vous avez enfin un micro.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous.
Vous êtes donc, vous venez donc représenter Profession Sport et Loisirs 76, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Donc je suis chargée de mission au sein donc de l'association Profession Sport et Loisirs 76. Donc nous, notre objet, c'est d'accompagner le mouvement associatif, de structurer l'emploi et d'œuvrer pour la promotion et le développement donc de l'emploi et de la formation, notamment dans les secteurs donc du sport, de l'animation, jeunesse, loisirs.
Ok. Et dans ce cadre, vous travaillez avec quelles associations, par exemple ?
Alors, nous, on est plus proche, effectivement, encore une fois, du secteur sport et animation, puisque à la base, en fait, on a été créé justement pour lutter contre la précarité de l'emploi dans le sport. Donc, on travaille effectivement principalement avec ce secteur, mais nous sommes également centre de ressources d'information pour les bénévoles. Et à ce titre, on accueille tout type d'associations, culturelles, sociales, cultuelles même, pour les aider dans leur gouvernance, dans la gestion administrative de leur emploi. Ou même si vous, vous désirez créer une association, vous pouvez venir nous voir et on vous accompagnera pour rédiger des statuts, pour faire publier au journal officiel votre association. Enfin, voilà, on accompagne les dirigeants dans leur fonction.
C'est un petit peu la thématique de la semaine. J'ai l'impression que si je ne m'abuse, lundi dans le Blabla Mix, ma chère collègue recevait, attention c'est un sigle compliqué, je vais essayer de ne pas me rater, une dame qui représentait l'école technique privée du Rouen Hockey Elite 76. Vous connaissez, non, un petit peu?
Non, pas personnellement. Après, le RHE a également, alors c'est vrai que j'allais peut-être vous en parler après, mais maintenant un centre de formation où ils forment des apprentis dans les secteurs aussi du sport. Je crois qu'ils ont des formations pour former également des maîtres nageurs et des éducateurs comme nous. Mais on est organisme de formation, donc ce sont aussi des partenaires et voilà, on se partage en tout cas le marché de la formation sur ce secteur. Mais après, moi, je ne les connais pas personnellement.
C'est dommage, il va falloir qu'on organise une petite rencontre.
Avec plaisir.
Bon alors, vous nous disiez que les métiers du sport étaient particulièrement précaires.
Oui, à la base, en fait, déjà les associations sportives, donc, qui représentent un gros secteur au niveau associatif et qui, effectivement, ont longtemps fonctionné que sur du bénévolat. Et à un moment, on souhaitait professionnaliser en fait, leur encadrement et du coup avoir recours à des salariés et à du personnel, on va dire, encadrant qualifié. Nous, on intervient aussi donc, pour lutter contre cette précarité, je vous disais, au niveau de la structuration de l'emploi, c'est-à-dire, encore une fois, aider des dirigeants qui, à la base, donc, sont des bénévoles et qui n'ont pas forcément de compétences RH, qui n'ont pas toute compétence en droit du travail. Enfin, voilà, ils font évidemment tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas forcément toutes les informations. Donc, nous, en fait, nos services les accompagnent pour avoir des contrats de travail qui contiennent bien toutes les clauses.
Oui, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément évident pour une personne
qui
est plus passionnée par le sport. Vous-même, vous venez de qu'est-ce qui vous a amené dans profession sport et loisirs 76?
Alors moi, à la base, j'ai un parcours juridique. J'ai fait des études juridiques et moi, au départ, j'avais intégré l'association pour rédiger justement un guide juridique à destination de toutes les associations sportives, avec des conseils justement au niveau du droit du travail, mais également au niveau de la fiscalité, au niveau de la gouvernance. Etc. Et au fur et à mesure, après, moi, mes missions se sont étendues et j'interviens également au sein de nos formations au niveau juridique. Et donc voilà. Mais maintenant, bon, je suis sur plus de missions dans l'association.
Bon, là, vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais j'ai un petit flyer dans les mains qui nous a été remis par notre aimable invité. Donc, vous dites que vous faites des formations. Vous proposez quoi comme formations différentes, par exemple, des exemples?
Alors, nous, on a six formations principales, donc, qui sont donc, des BPJEPS. Alors, c'est vrai que le terme est un peu technique.
C'est un diplôme, ça, non?
C'est moi qui des brevets professionnels, donc jeunesse, éducation populaire, sport. Donc, on a plusieurs thématiques. On forme donc les maîtres nageurs, quand vous allez à la piscine, voilà, tous les maîtres nageurs autour des bassins. Les coachs fitness, donc un BP activité de la forme. Également l'animation sociale, loisirs tout public, activité physique pour tous. En fait, ce sont tous les éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices que vous retrouvez dans les associations sportives, qui peuvent aussi être engagés dans les collectivités territoriales, qui organisent les activités physiques et sportives, ce qu'on appelle les APS.
Du coup, profession sport et loisirs 76, c'est vraiment multitâche. Vous êtes plutôt dans l'aspect juridique, administration, c'est bien ça?
Oui, parce que oui. Après, c'est vrai qu'on a trois pôles activités bien distincts. Donc, ce pôle formation avec nos formations, on forme donc nos stagiaires. Après, on a un pôle donc d'accompagnement du monde associatif. Donc, ce que je vous disais, structuration de l'emploi, prise en charge de la gestion salariale. Et un pôle aussi ingénierie-développement, auquel moi je suis rattachée, mais je suis seule dans ce pôle, et où je réponds à des appels à projets chaque année, des appels à projets de la région, de la direction départementale cohésion sociale, où on essaye en fait de mettre en place des actions, toujours en lien avec le sport, mais pour faire que justement tous les publics soient concernés, qu'il n'y ait plus de public éloigné de la pratique sportive. Et des fois, c'est se servir aussi de l'outil sport pour aussi organiser, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais par exemple, on monte des actions en fait, de recrutement un petit peu originales où des demandeurs d'emploi vont rencontrer des entreprises en partageant un terrain de sport.
Des actions plus ponctuelles, donc.
Oui, plus ponctuelles. Là, dernièrement, on a monté une action au Kind Arena qui s'appelait Femmes, Sport et Emploi, où plus de 160 femmes en recherche d'emploi ont pu rencontrer des entreprises le matin autour. Donc, elles ont partagé, elles ont fait du taekwondo, du basket, du hand. Elles ont pu partager un repas avec les entreprises. Et l'après-midi, on organise un job dating où elles rencontrent là des employeurs, mais elles découvrent en fait des gens qui faisaient partie de leur équipe le matin. Puisque le matin, tout le monde a un seul t-shirt, donc elles ne savent pas en fait que dans leur équipe, il y a un potentiel employeur. Nous, notre but, voilà, c'est d'utiliser le sport pour un peu casser les codes, des fois, des recrutements un peu trop formels.
Ah, d'accord, mais oui, c'est une idée originale quand même de mêler sport et emploi comme ça. Comment s'est-il vous est venu ?
Alors, l'idée ne vient pas de nous, elle vient de notre partenaire qui est le Crépi. Crépi Normandie, qui est un club régional d'entreprises. Donc eux, ils ont tout un réseau d'entreprises, donc des gens qui cherchent à recruter. Et en fait, quand on s'est rencontrés donc pour monter ce partenariat, nous, on était étiquetés sport, si vous voulez. Mais l'idée ne vient pas de nous, l'idée vient du Crépi.
Donc du coup, vous n'avez pas une espèce de pôle créatif qui se charge de créer des petits projets comme ça?
Alors moi, on peut créer d'autres choses, par exemple des formations pour le développement des activités des clubs, on peut faire différentes choses, mais c'est vrai que sur une action comme celle-ci, des fois on vient faire appel à nous. De la même façon, on travaille beaucoup avec le département, avec donc la direction départementale cohésion sociale, qui quand ils veulent monter des projets, viennent nous voir et nous on amène un apport technique et logistique. On a fait une journée d'études, par exemple, au mois de décembre, sur valeurs éthiques dans le sport. Moi, je suis plus dans l'organisation de la journée, du contenu. Mais c'est souvent, effectivement, une commande qui vient de nos partenaires.
Et vous-même, au niveau personnel, question comme ça, un peu fofolle en tant que grand sportif, vous qui m'entendez le savez, vous pratiquez le sport ou c'est vraiment quelque chose qui vous est arrivé dessus un petit peu avec...
Ah oui, non, mais je ne suis pas une grande sportive, je suis une sportive de loisir, donc je fais du vélo, de la natation, mais non, je ne viens pas de... Je n'ai pas eu un parcours dans une association où j'ai pas... Non, je ne suis pas une grande sportive, sportive de loisir, voilà. Qui reste une sportive, tout
de
même.
Ça vous donne pas des envies, là, de travailler avec toutes ces associations sportives, d'aller, je ne sais pas, partir, devenir bobsleigh, faire du bobsleigh ou du curling ou je ne sais quel sport
J'ai rencontré une association qui fait des raids en vélo et j'ai participé à un raid. J'ai traversé une partie de la Namibie en vélo.
Ah oui, c'est...
Et ça, c'est vrai que c'est grâce aux associations sportives qu'on peut, rencontrer parfois. Ça peut donner des envies, mais...
Le rôle de l'association sportive, est-ce que pour vous, il est strictement sportif ou est-ce que vous croyez qu'elle a quand même un rôle au-dessus de ça, au-dessus du simple sport, peut-être de cohésion sociale ou...
Oui, on attend énormément des associations sportives, justement, dans leur rôle de cohésion sociale. Et c'est pour ça que nous, on est très vigilants par rapport à nos stagiaires, futurs éducateurs, animateurs, pour qu'ils aient bien conscience de ça. Maintenant, un éducateur, il doit être déjà force de proposition dans le développement de sa structure, être capable de monter des projets, que ce soit en sport santé, sport handicap. Les associations, maintenant, sont amenées à s'ouvrir au maximum. Elles ne peuvent plus refuser, on va dire, des adhérents qui ne rentreraient pas peut-être dans certains critères. Mais elles sont, c'est un levier déjà du vivre ensemble. Et nous, on est vraiment très attachés par rapport, je vous dis, à nos stagiaires, à les sensibiliser à toute forme aussi de discrimination, qu'ils apprennent à les reconnaître, de pas qu'elles soient pratiquées dans les clubs à cause d'un handicap ou... de lutter aussi contre les stéréotypes, les préjugés sur telle ou telle discipline qui est pratiquée plus par les hommes ou les femmes. Enfin voilà, on est très vigilant à ça et c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport aux associations qui sont maintenant beaucoup plus ouvertes et conscientes en tout cas de leur rôle au niveau du territoire surtout.
Bon bah c'est super et je vous propose, puisqu'on approche de 17h45 et comme j'aime bien le dire, chers auditeurs, à 17h45, c'est l'heure de la petite pause musicale, de partir sur une petite pause musicale donc avec Let Us Pray de Kiss Ape.
Bitch, I'm from the R. potion. Bitch, I'm walking killer whale. Pull out the ski mask and wrap the sewer. Ay, free him, let him swim through the waves. Shut him lights off at the sewer. Ay, let us pray. Fuck you, sewer, 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 let us pray. Plus, bitch, I'm getting paid. Plus, bitch, I'm getting paid. Ay, buying on out of sack. And I'm chiffing by myself. Ay, chiffing whole sack. Ay, making with my gang. Ay, finessing with them chase. Living great, cause we are blessed. Blessed. Cause we are blessed. Yeah.
De Kiss Ape, chers auditeurs HDRiens et HDRiennes, et nous sommes toujours avec Charlotte Héroir, la première invitée depuis janvier que je suis en service civique, dont j'ai réussi à bien prononcer le nom sans jamais l'écorcher ni me tromper, parce que, chers auditeurs, pour vous, j'ai pensé à le noter sur une feuille, qui vient nous parler de profession, sport et loisirs, et on parlait avant cette pause musicale un petit peu du rôle du sport et des associations sportives au-delà du simple aspect sportif, ce qui m'amène à une question: est-ce que vous pensez que le sport, en général, là vous nous parliez de femmes qui faisaient du sport avec de futurs employeurs, est-ce que vous pensez que le sport d'une façon générale a un rôle important dans la société?
Ah oui, c'est essentiel, parce que le sport effectivement permet une mixité sociale qui est importante. C'est vrai que quand on fait du sport dans une association, souvent on peut retrouver tous les métiers, toutes les classes sociales. Donc c'est un lieu effectivement qui est important. Pour les enfants, c'est aussi un lieu où voilà, des valeurs sont véhiculées. Nous, on insiste beaucoup. D'ailleurs, il y a une charte qui a été écrite, une charte éthique et valeurs dans le sport, qui a été envoyée à tous les clubs de Seine-Maritime pour justement appuyer sur ce rôle pédagogique, éducatif des éducateurs par rapport à leur public jeune. Donc c'est vrai qu'avec l'école, avec la famille, je pense que voilà, l'association sportive a aussi un rôle éducatif très important à faire. Donc voilà, les valeurs du sport, effectivement, sont très importantes.
La charte éthique et valeurs dans le sport, il y a quoi là-dedans?
C'est le rappel de plein de choses. Après, je pense que pour toutes les associations sportives, elles n'ont pas attendu cette charte pour véhiculer des valeurs, mais c'est vraiment un rappel, justement, de mixité, de tolérance, de respect des règles. Voilà, c'est un document qui a été écrit de concert avec plein de partenaires, le département, l'État, voilà, pour remettre au devant de la scène, on va dire, certains principes, mais qui étaient partagés, mais peut-être pas assez identifiés dans les clubs.
Bon, vous nous parlez de mixité sociale. Il se trouve qu'en l'occurrence, sur ce sujet, on est plutôt intéressé, ma chère collègue Marie et moi-même, puisque nous travaillons là-dessus sur un projet dont on vous reparlera, chers HDRiens. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que cette mixité sociale est vraiment respectée dans le sport ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que certains sports attireraient plutôt certaines catégories de personnes ? Est-ce que les femmes sont bien représentées dans le sport ? Les discriminations, tout ça. Est-ce que pour vous, la mixité sociale est vraiment bien installé dans le sport?
Non, c'est, enfin, je veux dire, on lutte contre ça justement. Je vous disais tout à l'heure, nous, nos stagiaires, on fait de la prévention justement en lutte contre la discrimination. Le sport peut être est discriminatoire par rapport à plein de choses. Je pense aux femmes, effectivement, elles n'ont pas accès à certaines pratiques, même si ça change énormément. Je parle, par exemple, on connaît bien le club de football qui est ici dans les Hauts-de-Rouen. Maintenant, ils ont une section féminine qui est conséquente, donc les choses changent. Mais effectivement, par rapport aussi au un levier qui est, enfin, au niveau des moyens financiers aussi, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des pratiques qui coûtent plus cher, c'est moins cher, voilà, de pratiquer du foot que du golf ou du hockey. On parlait du hockey tout à l'heure. Cette pratique sportive représente quand même un... Après, il existe plein de dispositifs d'aide au sport pour les jeunes, d'aide au sport pour les personnes en situation de handicap, parce que là, c'est vrai que voilà, pour les personnes en handicap, il n'y a pas... des fois, ça peut être difficile pour elles d'accéder à un club sportif, mais les choses changent aussi. Maintenant, en Seine-Maritime, il y a plus de 150 clubs, je crois, qui sont labellisés sport et handicap pour lutter justement contre les discriminations par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça change, que ce soit voilà, par rapport à elles, par rapport aux femmes. Mais cette mixité, oui, voilà, faut se renseigner pour savoir quelles sont les aides pour essayer de... Alors après aussi, il y a un travail qui est à faire par rapport aux dirigeants de clubs qui peuvent aussi avoir, je vous disais tout à l'heure, des stéréotypes, des préjugés et qui ne vont pas aller chercher des adhérents, donc, voilà, qui ne vont peut-être pas avoir des cibles variées. Mais on essaye de justement leur dire que leur pratique doit être ouverte à toutes et à tous.
Vous avez remarqué ce fait-là ?
Que c'est... Oui, les choses ont changé. Déjà, pour un point qui est aussi important, ça ne va peut-être pas vous parler, mais il y a une campagne de financement qui a lieu chaque année qui s'appelle le CNDS. Alors, ça va peut-être changer, maintenant c'est peut-être l'agence du sport, mais qui finance les associations sportives. Et en fait, on les finance maintenant sur des projets. Et ces projets-là doivent obligatoirement être tournés vers les publics dits fragilisés. Donc ça va être, l'accent va être mis voilà, justement sur les habitants des quartiers prioritaires, sur par exemple les femmes, quand la discipline est sous-représentée par rapport aux femmes, par rapport au public en situation de handicap. Donc en fait, on les a un peu obligés, par le biais des moyens de financement, à s'ouvrir, à monter des actions justement pour faire connaître leurs activités à des publics qui pour le moment étaient encore éloignés de leur pratique sportive. Donc ça a été, et c'est en train de changer, et même si c'est pas encore assez, c'est quand même notable, il y a des choses, je vous dirais, l'exemple du foot, alors on prend toujours l'exemple du foot, mais c'est là où il y a le plus d'associations, maintenant ils ont presque tous une section féminine et une équipe féminine.
Oui, d'ailleurs je crois que Plamedi joue dans la section féminine de l'équipe de Forêt. Bon, vous nous parlez du CNDS.
C'est pas, une honte, au contraire.
Mais ça ne serait pas une honte.
Parce que je crois qu'il y a un haut niveau chez les filles.
Oui. Et de toute façon, aucun doute que n'importe quelle femme de n'importe quelle association sportive du coin pourrait me déglinguer au football. Ça, d'ailleurs, dans n'importe quel sport. Vous nous parliez du CNDS, sigle. Qu'est-ce que c'est ce sigle ?
Alors, c'est le Centre National du Développement du Sport.
Chapeau.
Voilà, c'est donc un fonds, un fonds financier qui... Alors, c'est constitué... en partie par l'argent collecté avec la Française des Jeux. Et ça vient aussi du sport professionnel. Et en fait, c'est une enveloppe qui sert au sport amateur. Et chaque année, effectivement, chaque année, on ne sait pas trop l'avenir de cette enveloppe du CNDS, mais sert à financer les emplois dans les associations sportives et toutes les actions, justement, du sport pour tous.
Vous voulez dire que le pari sportif finance le sport amateur ?
Oui, une partie.
Ça, c'est extraordinaire.
Donc,
mesdames
voilà, quand vous jouez au loto, une infime partie peut revenir à votre association sportive. Ça pourrait être plus, je pense, mais oui.
Ouais, du coup, on parle financement, parlons projet. Est-ce que vous avez des projets en ce moment ? Sur quoi vous travaillez à Profession Sport et Loisirs 76 ?
Alors, les projets en ce moment donc, sont ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, nos parcours sport-emploi. Donc, en fait, ce sont des parcours. Suite à cette journée qui a lieu donc, au Kind Arena, on délocalise l'action sur trois territoires. À Caen, du 24 au 26 avril. Donc là, le public cible n'est plus les femmes, mais les habitants des quartiers prioritaires en recherche d'emploi. Donc pendant 3 jours, il y aura une préparation autour du sport, des activités. Donc ils pourront autour de l'escrime, autour du basket. Mais il y a aussi tout un accompagnement lié à la recherche d'emploi sur techniques de communication orale, etc. Et une rencontre toujours avec les entreprises sur un terrain de sport. Donc à Caen, donc 24-26 avril, à Elbeuf du 4 au 6 juin et à Louviers au mois d'octobre. Donc si jamais voilà, des personnes en recherche d'emploi de ces territoires veulent participer, il suffit de nous contacter. Et par contre, oui, il faut habiter sur un quartier prioritaire. Alors pourquoi voilà, c'est un public cible, comme on l'a fait avec les femmes au Kindarena, parce que voilà, le taux de chômage est quand même plus important sur ces territoires ou pour ces publics, et du coup, ça nous autorise cette discrimination positive.
Du coup, vous pérennisez cette action, j'imagine que ça veut dire qu'elle a bien marché au Kindarena. C'était ouais. Quoi déjà le nom, excusez-moi ?
C'était Femmes Sport Emploi.
Femmes Sport Emploi, voilà.
Femmes Sport Emploi au Kindarena, donc première édition l'année dernière et qui a très bien fonctionné. Donc là, c'est une action en fait qui est menée par la préfecture. Mais c'est nous qui l'organisons, voilà. Et ça avait permis, en retour à 6 mois, d'avoir la moitié des participantes qui étaient en retour d'emploi.
Et question subsidiaire, est-ce que ces participantes, alors je ne sais pas si vous êtes assez en contact avec elles pour le savoir, mais est-ce que ça leur a aussi donné envie?
Toutes.
Ah bon, bah très bien, comme ça on va avoir une réponse ferme et sûre, chers auditeurs. Est-ce que ces participantes du coup se sont lancées dans le sport?
Non, mais c'est vrai que je pense que pour elles, au départ, quand on leur a parlé de ça, elles ont dû toutes se dire, mais pourquoi on m'embête avec du sport alors que moi je recherche un emploi? Et moi-même, la première, j'étais pas forcément, j'étais un peu dubitative par rapport à cette action. Et en fait, c'est fou, mais dès le matin, il y a une cohésion qui se fait. Donc elles sont plusieurs équipes. Hein. Donc comme je vous dis, la première édition, elles étaient 120. Donc c'est 10 équipes, donc mélangées avec les chefs d'entreprise. Et dès le matin, en fait, ça prend. Et elles se décontractent et à la fin de la journée, elles comprennent l'intérêt en fait du sport le matin. C'est pas juste pour les embêter, c'est vraiment parce que ça permet de faire voilà tomber les barrières et donc ça voilà ça fonctionne très bien. Mais oui, au départ, elles y vont pour certaines un peu à reculons. Celles de, il y en a qui ne veulent pas. Hein, c'est une proposition. Nous, on travaille avec le Pôle Emploi, l'émission locale, le Cap Emploi. L'action est proposée. Après, je peux comprendre que c'est pour certaines, ça soit il y a une barrière. Importante, mais pour celles qui franchissent le pas, c'est une expérience qui est vraiment enrichissante et même entre elles, en fait, c'est sortir aussi un moment de sa recherche d'emploi, pas être seule et de se faire aussi un réseau après entre, là c'était des femmes, hein, mais c'est pas toujours le cas, mais je veux dire, voilà, il y a une dynamique qui s'installe et qui est vraiment intéressante. Elles sont toutes satisfaites de l'action.
Mais elles ont continué dans le sport après ?
Alors pour certaines, parce que c'est ça le but, hein, nous on fait intervenir des associations sportives, bah ça les remet un petit peu dans cette voie-là, elles se disent, voilà, ça faisait des années que je n'avais pas chaussé des baskets, et bah peut-être que je vais m'y remettre. Mais bon, ce n'est pas le but de l'action, mais ça peut être une des conséquences, et c'est aussi bien.
Ouais, je crois que les employeurs aiment bien voir du sport sur les CV. Malheureusement, chers amis, vous le savez, 17h58 et 30 secondes, c'est l'heure où je commence à regarder tristement vers Jérémy en sachant que c'est bientôt terminé. Heureusement, il me reste encore un petit peu de temps pour vous dire au revoir. D'abord, au revoir, Madame Charlotte Terroir.
Au revoir.
Et surtout, n'hésitez pas, chers amis, à vous renseigner sur Profession Sport et Loisirs 76, qui a peut-être une page Facebook ou des contacts.
Oui, on a un site, alors c'est un peu compliqué, mais voilà, en tapant PSL76, vous nous trouverez. Et on a aussi effectivement une page Facebook, PSL76.
Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous renseigner sur cette association. C'est bien une association, je ne dis pas de bêtises.
C'est une association.
Qui fait des actions au sens très large, comme le sport a toujours des conséquences très larges. J'ai dit au revoir à Doc Mansour qui est en train de remballer ses outils de torture qui va nous laisser. Et bien sûr, au revoir à nos chers stagiaires que l'on retrouve demain. Salut les gars! Salut alors, Jérémy, et je ne vous laisse pas tout seul, bien sûr, chers amis, puisque je vous laisse sur le 99.1 Radio HDR avec notre ami Loïc qui va vous rediffuser Campus Mag, et à 20h, bien sûr, chez nos amis de Principe Actif avec l'émission Fofolle, Étrange et Éclectique, Hit the Road Again. Allez, au revoir à tous et à très vite.